Chers auditeurs, bonjour. Au micro, Marie-Josée Rocheron, dans le cadre de l'émission « Histoire d'en savoir plus ». Je reçois aujourd'hui Josette Desnaux, professeure à l'Université du Temps Libre. Josette Desnaux, bonjour. Voulez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous animez un atelier gym mémoire à l'Université Chartraine du Temps Libre?
Bien, ben bonjour. J'étais effectivement professeure dans un lycée professionnel dans le cadre de ma carrière. Et j'avais des élèves qui n'étaient pas forcément dans la réussite. Aussi, j'ai recherché des méthodes pour leur apprendre à apprendre, car mon but, c'était qu'ils réussissent leur bac. Ben, cette idée fixe, je l'ai un peu poursuivie dans ma carrière d'inspecteur de l'enseignement technique. J'ai justement travaillé avec une cousine qui est orthophoniste, qui s'intéressait aussi aux problèmes de mémoire. Et tout naturellement, à la retraite, j'ai cherché à mettre mon expérience au service des personnes qui fréquentent l'Université Chartraine du Temps Libre. J'ai donc proposé à son président, M. Bourseguin, un atelier de gym mémoire. Et la demande fut au-delà de nos attentes, car dès la première année, nous avons ouvert 2 cours le lundi matin. Et depuis cette année, j'anime aussi 2 cours à l'Université Drouaise du Temps Libre le lundi après-midi.
Pouvez-vous nous dire à qui s'adressent vos cours?
Mais en priorité, bien sûr, aux personnes qui fréquentent l'Université du Temps Libre. Donc à toutes les personnes qui peuvent s'apercevoir que leur mémoire flanche une fois terminée leur carrière professionnelle, à ceux et celles qui cherchent tout le temps leurs clés, leurs lunettes, leur voiture sur le parking, à ceux et celles qui ont sur le bout de la langue le nom d'une personne qu'ils rencontrent, le titre d'un livre, d'un film.
Ah oui, tout ça est très fréquent.
À tous ceux, en fait, dont la mémoire s'est assoupie, faute de travailler régulièrement.
Voulez-vous nous dire comment se déroulent vos ateliers de gym mémoire?
Alors, dans l'atelier de gym mémoire, j'invite les étudiants de l'Université Chartraine du Temps Libre à s'entraîner avec des exercices ludiques et variés pour développer les différents types de mémoire. Alors du genre anagramme, quiz, des exercices de mémoire visuelle, auditive, des exercices de logique, des exercices de concentration. Je donne aussi des techniques et des stratégies pour améliorer les capacités de mémorisation. Et enfin, j'explique comment fonctionne notre mémoire.
Eh bien, justement, pourriez-vous nous dire comment fonctionne la mémoire?
Bon, alors je vais schématiser le processus de mémorisation qui en fait s'effectue en 3 étapes. La première étape, c'est l'acquisition de l'information. Les messages arrivent par nos différents canaux sensoriels. Dans cette mémoire perceptive, il y en aurait une par modalité sensorielle, hein, selon Francis Eustache, un neuropsychologue. Donc les mémoires visuelles, auditives, olfactives, gustatives, kinesthésiques, c'est-à-dire le toucher, et on rajoute l'émotivité et le mouvement. Alors ces informations arrivent dans la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme qui retient environ 7 éléments pendant environ 7 secondes. Vous voyez, je schématise, je donne des chiffres faciles à mémoriser.
Est-ce que je peux vous interrompre un instant? Oui. Quand vous dites l'émotivité et le mouvement, est-ce que vous pourriez préciser exactement, développer un peu ces deux points?
Bien sûr, ben l'émotivité, si vous voulez, nos émotions ont une action sur nos connexions, qui vont relier donc par exemple l'hippocampe, qui est la garde de triage de notre mémoire à long terme, avec l'amygdale, qui est cérébrale, qui est chargée de décoder nos émotions. Alors, quand, ben oui. Par exemple, vous avez des gens qui vont vivre, par exemple, un attentat, ben, il est bien évident que ce n'est pas seulement de la mémoire qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire qui va relater des faits. Il y a en même temps toutes les émotions, tout le ressenti qui a été enregistré dans la mémoire et qui va, bien sûr, se conserver. Hein.
Et puis alors, le mouvement ?
Alors, le mouvement, ben, c'est la mémoire kinésique qu'on appelle. C'est la, au même titre que la mémoire visuelle ou la mémoire auditive, elle s'utilise pour enregistrer certaines informations. Imaginez que vous rangez votre selle dans un placard. Vous avez l'habitude, sans réfléchir, vous allez chercher le selle à cet endroit-là. Mais vous réaménagez votre cuisine, vous changez vos placards. Et bien instinctivement, vous irez rechercher le sel là où vous aviez l'habitude de le rechercher. Donc c'est aussi une mémoire du geste, du mouvement. C'est aussi la mémoire des danseurs pour leur chorégraphie.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, donc c'est ces différentes mémoires qui ont été répertoriées.
Et chacun dans la vie a une mémoire plus ou moins... plus visuelle ou plus auditive, etc.
Tout à fait.
C'est poussé, donc...
Tout à fait, mais par contre, justement, il faut s'entraîner à utiliser les différents canaux sensoriels. Oui. C'est très important. Donc, cette première mémoire de travail, elle va être très éphémère, elle va être très limitée. Donc, c'est une mémoire qui va servir, par exemple, quand vous voulez calculer quelque chose, quand vous voulez retenir un numéro de téléphone pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir le composer. Mmh. Donc là, on fait attention, mais cette attention n'est pas suffisante puisqu'il va y avoir des informations qui vont être perdues ou qui vont être oubliées. Par exemple, quand des gens sont témoins de quelque chose, vous remarquerez...
Ah oui.
Que tout le monde n'a pas vu la même chose.
Ah, pas du tout, et même très souvent des choses très différentes.
Voilà, et bien parce que chacun a privilégié un canal ou a enregistré certaines informations et pas d'autres. Voilà, alors donc si on s'arrête là, effectivement, l'information ne va pas être stockée. Mmh. Donc si c'est notre deuxième étape, c'est le stockage de l'information justement dans l'hippocampe. L'hippocampe, donc c'est notre gare un petit peu de triage. Donc pour stocker cette information, il faut plusieurs choses. Bah déjà, il faut se concentrer, ça c'est important.
Oui, et l'époque n'est pas à la concentration.
Pas du tout, justement. Alors donc, se concentrer, c'est plus que faire attention. Hein. C'est plus, donc, ça va plus loin. Mm-hmm. Donc il faut se concentrer, il va falloir faire des associations avec les informations que vous avez déjà dans vos mémoires. Par exemple, pour retenir un code de carte bleue, un code d'entrée de porte, par exemple, vous pouvez l'associer au numéro de département que vous avez appris dans l'enfance. Donc, vous faites une association avec quelque chose de connu et ça vous aide à mémoriser. Bon, cette information, il faut aussi, pour mieux la stocker, il faut la structurer. Par exemple, pour retenir un numéro de téléphone, vous allez regrouper les chiffres deux par deux parce que ça va diminuer la quantité à mémoriser. Puisque je vous ai dit, on mémorise en gros 7 à 9 éléments. C'est ce qu'on appelle notre empan mnésique. Mais donc, pour retenir un numéro de téléphone, vous allez dire 0237 et vous n'allez pas dire 0237, qui est beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors, pour stocker aussi, il va falloir encoder l'information, créer des moyens mémotechniques. Par exemple, on va fabriquer une phrase qui permet de fixer les éléments à retenir. Pour retenir l'orthographe du mot « mourir » et « nourrir », par exemple, on va dire, et vous avez peut-être appris ça avec vos maîtresses ou instituteurs ou institutrices ou professeurs des écoles maintenant, le mot « mourir » s'écrit avec un « r » car on ne meurt qu'une fois.
Ah, ça me revient.
Par contre, le mot « nourrir » s'écrit avec deux « r » car on se nourrit plusieurs fois. Et il y en a comme ça un certain nombre dans l'histoire de la scolarité. Et enfin, il faut répéter. Pour que l'information soit stockée dans les différentes mémoires à long terme, il faut répéter. Il n'y a pas de secret. Apprendre par cœur, c'est toujours important. Et alors, la troisième étape de la mémorisation, c'est le rappel de l'information. Si l'information a bien été encodée, rangée, il sera plus facile de la retrouver et donc de la récupérer. C'est comme dans une bibliothèque. Si un livre est mal rangé ou pas à sa place, il sera difficile de le retrouver, il sera perdu. Ben, c'est la même chose dans notre mémoire.
Vous parlez des mémoires. Pouvez-vous nous préciser ces différentes mémoires ?
Alors, en effet, selon Francis Stache, qui est donc un neurologue renommé, il y aurait 5 mémoires. La mémoire de travail, à court terme, dont je viens de vous parler. La mémoire perceptive, dont je vous ai parlé aussi, une part pour chaque sens. Mais on a aussi la mémoire procédurale. Cette mémoire procédurale représente les habitudes, les automatismes. Cette mémoire nous permet d'acquérir des compétences motrices sans avoir à les réapprendre à chaque fois. Par exemple, savoir faire du vélo, conduire une voiture. Vous réfléchissez plus, que vous passez la vitesse, que vous vous débrayez, etc. Ou être capable de lacer ses chaussures. Hein? Alors, cette mémoire procédurale, elle travaille de façon inconsciente. De cette manière, elle libère nos ressources pendant les activités routinières de la vie quotidienne. Mais cette mémoire procédurale demande de nombreuses répétitions et font appel à l'ensemble de nos ressources cognitives. Vous voyez, pour apprendre à faire du vélo à un enfant, eh bien, ça prend un petit bout de temps. On commence par lui mettre les petites roulettes, et puis ensuite on lui enlève, etc. Mais une fois qu'on a appris à faire du vélo, il paraît que c'est pour la vie. Alors, il y a cette mémoire procédurale, il y a aussi la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances apprises sur le monde ou sur soi. Cette mémoire sémantique permet d'avoir des connaissances, par exemple l'usage d'un objet, le sens d'un mot. Cette mémoire sémantique est multisensorielle. Elle code nos connaissances générales et abstraites sur le monde, le sens des mots. Par exemple, connaître sa date de naissance, savoir que le Nil est un fleuve en Égypte. Voilà pour cette mémoire sémantique. Sémantique, ça vient du sens des mots.
Bien sûr.
Et il nous reste donc une cinquième mémoire qui est la mémoire épisodique. Alors, cette mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs, évoqués avec détail et placés dans un contexte précis. Cette mémoire épisodique permet de retenir des événements uniques, tels des voyages, ou ce que l'on a fait la veille, par exemple. Elle permet aussi d'enregistrer des événements personnels, tels que le déroulement de son mariage. La mémoire épisodique permet aussi de se projeter dans le futur.
Ma mémoire m'a déserté. Enfin, je vais profiter de tout sans rien. N'en regretter. Affranchi le lendemain du souvenir, fatalement ça n'a pas duré. La mémoire m'est intuition que ça n'était pas la mienne que je retrouvais. À mesure que me gagnaient quelques souvenirs, je doutais qu'il m'ait un jour appartenu. Eux qui défilaient sans parler, mais comme ils pesaient moins que rien, et que cette mémoire n'avait nulle trace de jour fat. Tout mauvais, à merveille, elle me conviendrait.
Au micro, Marie-Josée Rocheron, dans le cadre de l'émission Histoire d'en savoir plus. Je reçois aujourd'hui Josette Desnaux, professeur à l'Université du Temps Libre. Si on veut donc se projeter dans le futur, comment faire pour avoir une bonne mémoire ?
Bien, pour avoir une bonne mémoire, moi j'ai retenu 5 éléments. Premièrement, désirer mémoriser. Deuxièmement, prendre soin de sa mémoire. Troisièmement, percevoir l'information. Troisièmement, traiter l'information. Et cinquièmement, s'entraîner. Je vais développer. Alors, désirer mémoriser, déjà, il faut être motivé pour mémoriser. On sait combien un enfant qui n'est pas motivé, il aura beaucoup de mal à apprendre. Donc, il faut avoir le désir de mémoriser. Il faut aussi retenir autre chose que ce que l'on aime. Parce qu'en effet, on retient mieux ce qui nous intéresse. Donc, il faut s'astreindre à mémoriser des informations qui ne nous passionnent pas forcément, a priori. Désirer mémoriser, c'est aussi avoir une réponse à une question qu'on se pose. Effectivement, si quelqu'un veut vous parler d'un sujet qui vous intéresse ou qui répond à une de vos interrogations, vous allez vous y intéresser et vous allez donc mémoriser. Pour mémoriser, désirer mémoriser, il faut avoir un objectif. Ainsi, l'enfant qui a pour objectif de réciter sa leçon à son institutrice, il va donc mémoriser dans le but justement de lui réciter cette leçon. Enfin, pour mémoriser, il faut faire attention.
Et l'attention, c'est un vrai problème aujourd'hui. Parce qu'on est sollicité par tellement de choses que l'attention est difficile à maintenir.
Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des professeurs des écoles qui maintenant font faire de la méditation aux élèves pour leur apprendre à non seulement à faire attention, mais surtout à se concentrer. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on désire mémoriser, il va falloir aussi prendre soin de son cerveau. Alors pour prendre soin de son cerveau ou de sa mémoire, déjà il faut dormir suffisamment. Les médecins recommandent justement 6 à 8 heures et pour les enfants bien plus. D'ailleurs, c'est une catastrophe si on laisse les enfants regarder la télévision le soir ou voir le matin. Il faut absolument que les enfants dorment.
Et les adultes aussi.
Oui, les enfants, après c'est plus que 8 heures. Mais là, je parle pour les adultes parce que moi, je m'adresse surtout à l'Université du Temps Libre, à des adultes. Prendre soin de sa mémoire, c'est aussi avoir une alimentation saine et variée. Donc ça, c'est très important, de manger des fruits, des légumes, de manger de tout dans des petites quantités. Bon, les médecins parlent aussi de manger des oméga 3 qui seraient intéressants pour la mémoire. Voilà, donc là, je leur laisse la responsabilité de ces propos.
Oui.
Ensuite, il faut prendre soin de sa mémoire, bien sûr, on va éviter le tabac, l'alcool et les drogues. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de drogue douce, il y a des drogues. Bon, et puis il y a même certains médicaments qui ne vont pas être très bons pour la mémoire. Mais bon, bien sûr, il faut se soigner et il faut quand même les prendre. Enfin, pour booster sa mémoire, il faut faire de l'activité physique.
Ah oui.
Ça paraît bizarre, mais les médecins recommandent 10 000 pas par jour, ce qui fait à peu près 5 km. Alors, vous allez me dire, oulala, 5 km, mais c'est
oui,
beaucoup.
Oui, ça paraît beaucoup, oui.
Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est un pharmacien chartrain qui, lors du réaménagement de sa pharmacie, a étudié le parcours de ses préparatrices en pharmacie qui allaient des réserves au comptoir, etc., pendant toute la journée. Et il s'est avéré que les préparatrices faisaient 12 km par jour, rien que dans la pharmacie. Alors, vous voyez que c'est
pas
faisable.
Pas besoin de promenade à l'extérieur.
Oui, on peut quand même faire de la promenade à l'extérieur. Mais déjà chez soi,
oui.
On fait des kilomètres. Parce que maintenant, il y a des petites applications sur les portables. Et moi, je me suis amusée à calculer. Eh bien, on fait facile 5000 pas dans sa maison.
Voilà.
Surtout quand on va dans une pièce en se disant « je vais chercher quelque chose », on arrive dans la pièce et on se dit « bon, ben, je ne sais plus pourquoi je suis venue, donc je reviens ». Mais justement, ça, l'objet de mes cours, c'est pour éviter ces pas inutiles.
Oui.
Voilà. Alors ensuite, notre mémoire, elle est aussi vitalisée si on entretient des relations sociales. Voilà. C'est très important de rencontrer des personnes. L'isolement, ce n'est pas très recommandable pour la mémoire.
Et de parler
soi-même
et d'écouter, parler, etc.
Voilà.
Ne pas rester silencieux tout le temps, être actif
dans
cette conversation. Oui.
Voilà, il faut entretenir sa mémoire. Il faut rester intellectuellement sur le qui-vive. Il faut lire, il faut aller à des conférences, aller au cinéma, aller au théâtre, etc. Pour justement éviter l'isolement, mais aussi éviter la routine. Ça, c'est très important. Ça, c'est donc le deuxième élément, prendre soin de son cerveau. J'ai distingué aussi un troisième élément pour avoir une bonne mémoire, c'est percevoir les informations. Donc, bien faire fonctionner ces différents canaux sensoriels, hein, les yeux, le nez, le goût, le toucher, les oreilles, enfin, tous les différents canaux, puisque ce sont les capteurs de l'information. Donc, il faut les entretenir et il faut les développer. Hein, et c'est sûr que les personnes qui ont des problèmes de, par exemple, les malvoyants, on sait très bien qu'ils pallient leur handicap en développant leur sens du toucher, leur sens de l'audition. Voyez. Donc effectivement, on a intérêt à avoir une large palette de canaux. Alors, le quatrième élément pour avoir une bonne mémoire, c'est le traitement de l'information. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut faire des associations, structurer l'information, encoder l'information pour bien justement la mémoriser. Alors, le cinquième et le dernier élément, c'est pour avoir une bonne mémoire, c'est l'entraînement. Alors, pour s'entraîner, il faut répéter. Vous vous souvenez certainement que vous avez rabâché l'étape de multiplication en chantonnant se faire une douce musique dans la tête. Alors, il faut se concentrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre bien à non pas se divertir. Il faut réactiver aussi par des jeux variés, parce que pour les personnes qui ne sont plus dans l'activité professionnelle, ils ne sont moins sollicités. Donc c'est pour ça que moi je leur propose donc des jeux variés, des genres anagrammes, des quiz, des jeux d'observation visuelle, auditive, des jeux de fluidité verbale, de logique, de concentration. Et puis, il va falloir faire appel à tous nos sens. Ça, c'est très important, parce que plus les sens sont mis en œuvre dans une mémorisation, plus on va mémoriser. Rappelez-vous Marcel Proust, avec sa madeleine.
Bien sûr.
Qui, avec une simple madeleine, il a retrouvé le goût, il a retrouvé l'odeur, il a retrouvé des sensations, des émotions. Donc, vous voyez que c'est toute une palette de sens qui sont mis en œuvre au travers de la mémoire. Et enfin, bien sûr, dans l'entraînement, il y a des techniques de mémorisation que j'utilise avec les étudiants de l'UCTL et qu'ils apprennent dans mes ateliers à Chartres et à Dreux. Alors, pour cette année, bien sûr, tous nos cours sont complets.
Ah, mais je ne suis pas surprise. C'est voilà. Un problème tellement crucial aujourd'hui que je ne suis pas surprise.
Voilà, donc moi je peux dire qu'en conclusion, la mémoire c'est très important parce que toute notre vie quotidienne dépend, tous nos actes de la vie quotidienne dépendent de notre mémoire. Et si on n'a pas de mémoire, on le voit bien malheureusement dans les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais je crois qu'il faut donc faire confiance à sa mémoire, la faire travailler. Parce que comme disait Cicéron, la mémoire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Voilà.
Eh bien, merci Josette Desnaux de cet aperçu, aperçu certes, mais très complet, sur la mémoire et les moyens de la garder la plus opérationnelle possible. Et la conserver est devenue absolument cruciale dans une société où chaque année la longévité s'accroît. Contrairement à une idée trop répandue, il y a des moyens de ne pas la laisser dépérir. Et la preuve vient de nous en être donnée.
Oui, effectivement, on pourrait penser que Internet, que les portables, tout ça, ça va nous servir. Ce sont effectivement des extensions de mémoire. Mais c'est aussi un piège parce que le jour où votre portable tombe en panne, tous vos numéros de téléphone sont inscrits. Vous n'en avez retenu aucun ou pas beaucoup. Et donc, vous êtes bien embêté pour pouvoir récupérer toute votre liste de téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à sa mémoire et entretenir sa mémoire.
Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, je vous remercie aussi. Au revoir.
Au revoir.
Talking about a sweet